Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Voilà, donc ce matin, j'aimerais partager avec vous, on peut dire une étude biblique, un morceau de la parole de Dieu que nous allons voir ensemble dans 1 Chronique au chapitre 13. Donc c'est aussi une aide à la lecture. Hein. Des fois on se dit qu'est-ce qu'on va trouver dans certains morceaux de la parole de Dieu, peut-être même en tant que chrétien, nous qui aimons lire la Bible, il y a peut-être des endroits qu'on aime spécialement, et puis d'autres on y va moins souvent, et ma démonstration se veut d'être, il y a des bonnes choses que Dieu a prévues pour nous partout, parce que nous croyons que toute la parole de Dieu est inspirée et utile, comme le dit 2 Timothée 3,16. Toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et donc, dans 1 Chronique, chapitre 13, j'ai un petit titre dans ma Bible, c'est le dépôt de l'arche, chez un homme qui s'appelait Obed-Edom, le dépôt de l'arche. C'était une période de transition encore, le royaume d'Israël était en train d'être établi. Avant, c'était d'abord une famille descendant d'Abraham, qui s'est donc multipliée, qui est devenue un peuple, c'est devenu le peuple d'Israël. Ensuite, ce peuple d'Israël a été en esclavage, puis il a été libéré avec l'action du prophète qui était Moïse. Et puis, il y avait toute une période transitoire où il y avait des hauts et des bas. Le peuple ne savait pas vraiment ce qu'il voulait. Ils étaient influencés par toutes les idoles des pays aux alentours. C'est pas une question de culture, de dire « mais il faut respecter toutes les cultures ». Il y avait quand même des cultes abominables de gens qui jetaient leurs enfants dans le feu en l'honneur de leurs idoles. Donc, c'était pas rien du tout. Hein. Les cultes Astarté, Moloch, Baal et d'autres choses comme ça. Et donc, Dieu avait dit, ne vous mélangez pas avec ces gens-là, ils vont vous influencer et vous allez faire les mêmes abominations qu'eux. Mais bon, il y avait des hauts et des bas, et de temps en temps on raisonnait du point de vue humain, il vaut mieux faire alliance que de s'affronter, et puis ils se laissaient influencer, et de temps en temps, ils étaient alors sous la domination de certains peuples, les oppresseurs. On a vu des situations comme le temps de Gédéon, par exemple, ou les Madianites, il nous est dit, ils venaient sur le peuple comme un groupe de sauterelles qui dévorait tout et qui prenait tout et qui repartait. Et donc, il y a eu des libérateurs qui ont été suscités, comme Gédéon, Barak, Samson et d'autres dont nous avons déjà eu l'occasion de parler de temps en temps. Et à un moment donné, donc il y a eu instauration de la royauté. Israël, une fois de plus, n'a pas fait le plan A que Dieu avait prévu. Donc, dernièrement, on avait regardé une série télévisée, et donc il y a un des personnages qui dit le plan A, mais il ne marche jamais le plan A. Il faut toujours un plan B. Et effectivement, on peut dire dans la parole de Dieu aussi, il y a un plan A. Mais le plan A n'a jamais fonctionné. Mais Dieu a toujours des plans, et quelqu'un dit, il y a quand même 26 lettres à l'alphabet, donc il y a encore des possibilités. Donc, ils ont voulu un roi, comme les autres pays, alors que Dieu voulait directement être au milieu d'eux. Voilà, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je serai au milieu d'eux. Et je leur fais tellement de bien que ça devait être quelque chose de merveilleux pour toutes les nations aux alentours. Même les gens qui passeraient par là, les caravanes de marchands, ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est merveilleux, et l'abondance qu'ils ont, mais on voudrait savoir pourquoi ils sont dans cet état de prospérité, d'abondance et de joie. Et donc, si vous voyez la vieille carte antique, vous aviez l'Afrique, l'Asie et l'Europe qui se touchent au Moyen-Orient. Donc, c'était le carrefour des routes. Tout le monde aurait dû voir. Là, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire qui se passe à cet endroit. Et alors, on leur aurait dit, mais c'est parce que le Dieu qui a créé toutes choses est leur Dieu. Voilà pourquoi il y a une bénédiction. Mais ils ont voulu aussi faire comme les autres nations. Alors comme les autres nations, ça voulait dire, nous voulons aussi un roi. Donc le premier roi qui a été choisi, déjà il s'est pas comporté comme il fallait. On peut dire ça lui est monté à la tête. Et ça lui est tellement monté à la tête, il est devenu fou et possédé. Et donc, Dieu a dit, ben, c'est terminé avec lui, maintenant je le rejette et j'en choisis un autre. Et cet autre dont nous parlons, c'est David. David, dont il est dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est quelque chose qui est resté. Et donc, là encore, nous ne voulons pas faire de l'angélisme, dire David, tout était parfait et merveilleux. Et, non, il avait des défauts, et il avait commis des choses vraiment graves, il avait fait des péchés, mais en même temps, il y a des choses que David a bien compris de la part de Dieu. Dieu se révélait à lui et lui montrait certains aspects que Dieu veut montrer à tout le monde. Dieu peut rester mystérieux et les voies du Seigneur sont impénétrables et mystérieuses. Non, le mystère, ça veut dire c'est quelque chose qui est caché, mais qui a vocation à être révélé. Comme il nous est dit, le mystère de l'Évangile, que Dieu ait préparé un sauveur de toute éternité, ça a été mystérieux pendant un temps, caché, mais maintenant c'est quelque chose qui a vocation à être connu mondialement. D'ailleurs, la bonne nouvelle doit être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, David a eu une part de révélation, et Dieu, on va voir dans un instant, révèle à David un certain nombre de choses au fur et à mesure que David marche avec lui. Donc, dans 1 Chronique 13, et j'ai appelé ce titre pour notre méditation, c'est « Dieu est là, et alors ?» Ça veut dire quel est l'impact réel de la présence de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Et là, en l'occurrence, pour le peuple d'Israël, qu'est-ce que ça change ? Le peuple d'Israël avait une alliance avec Dieu. Des fois, ils n'ont pas respecté cette alliance. Et puis, il y a eu toujours des personnes, soit prophètes, soit juges, soit en l'occurrence, là, il nous est dit de David que c'était un roi, mais en même temps qu'il était prophète. Quand il composait des chants, il y avait des éléments de prophétie, des fois. Et il avait des visions. Qu'est-ce qu'un prophète ? C'est quelqu'un qui a un ministère surnaturel qui lui permet de voir dans l'invisible. Dieu lui ouvre une fenêtre sur un autre monde qui existe, qui est un monde spirituel. Et il voit des choses. À un moment, il est même dit, de David, il a dit, « Seigneur, c'est extraordinaire. Moi, j'étais le petit berger, tu as fait de moi un roi, et maintenant tu me montres même ce que sera ma descendance, puisque... » Parce que Dieu lui avait révélé qu'il y aurait toujours quelqu'un qui serait assis sur le trône d'Israël jusqu'au Messie. Donc c'est Jésus étant un descendant du roi David. Donc c'est extraordinaire de voir cet élément de révélation. Alors, juste avant 1 Chronique 13 et le dépôt de l'arche, dans le contexte, il y a quand même un verset que je voudrais souligner. Au chapitre 11, on a tous les vaillants hommes de David. Donc des héros, des gens qui faisaient des choses extraordinaires au niveau de leur vaillance, au niveau de leur aptitude au combat. Et il y a des fois des éléments qui nous sont donnés de ce que ces gens étaient. Au chapitre 12, après les héros de David et les vaillants hommes, il nous est dit tous les autres guerriers qui sont venus pour renforcer cette autorité de David qu'il avait sur l'époque. Et donc, alors on nous donne des détails sur ces hommes. Par exemple, dans 1 Chronique 12, 8, il nous est dit, il y avait des hommes vaillants qui sont partis pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert. Des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance. Alors ils sont décrits semblables à des lions et aussi prompts que des gazelles sur les montagnes. Et alors ils sont décrits, et au verset 14, il nous est dit, un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes, et le plus grand à 1000 hommes. Donc c'était vraiment des gens extraordinaires qui sortaient du lot. Donc quand ces gens arrivent, on s'est dit, c'est formidable, le royaume est en train de se fortifier, il y a des gens qui arrivent, il y a des choses qui vont se passer. Mais David avait reçu la sagesse de Dieu, il avait assez d'expérience en matière de trahison et de tout ce qui lui était arrivé pendant sa vie pour être attentif. Et quelqu'un a dit, des fois on dit avec trop de facilité, « Ah, soyez les bienvenus, bienvenue tout le monde, etc. » Et une amie à nous a offert un petit tableau qu'on a accroché près de la porte d'entrée et il nous a dit, « Parents, amis, soyez les bienvenus. » Et je trouve que c'est quelque chose qui ressemble à ce qui est dit ici. Des hommes sont venus vers David Et donc il nous est dit au verset 16, il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. Et David sortit au devant d'eux et leur adressa la parole. Les fils de Benjamin, c'était la famille de Saül, d'accord, le roi précédent, celui qui voulait te tuer. Est-ce qu'on sait que ça se rend de bons alliés? On n'en est pas sûr. Et il ne nous est pas dit. Et David les accueillit, il leur disait, bienvenue, venez, rentrez, faites comme chez vous. Non, non, il est sorti au devant d'eux. Et il leur a d'abord adressé cette parole. Il a dit, si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. Donc vous voyez l'attitude, il y a une sagesse de Dieu qui lui est révélée et il fait attention, il ne dit pas n'importe quoi. Mais l'un des principaux officiers fut revêtu de l'esprit et dit, nous sommes à toi David, à toi fils d'Isaïe, paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. Et à ce moment-là, il nous est dit, David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Donc il y a des choses qu'il faut respecter avant de pouvoir vraiment faire une alliance ou une unité. Donc dans ce contexte, on peut dire s'agrandit, tout le monde vient à lui. David a d'abord dans un premier temps régné sur une partie d'Israël seulement, sur Juda, et ensuite tout le peuple d'Israël s'est joint à eux. Et dans le chapitre 12, au verset 38, il nous est dit de nouveau des gens de guerre. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David, roi sur tout Israël. Et maintenant, écoutez bien, et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils étaient unanimes. On va rester sur cette idée. Maintenant, c'est formidable. Tout le monde est ensemble, David, l'élu de Dieu, est sur le trône. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir son comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au chapitre 13, il tint conseil avec les chefs de milliers, de centaines, et avec tous les princes. Déjà, ça c'est intéressant parce que trop souvent, dans l'histoire humaine, dès que quelqu'un, comme ça, a une majorité derrière lui, il a tendance des fois à se transformer en un tyran ou en une personne autoritaire qui ne tient plus compte des conseils de l'autre. Je suis maintenant dans notre pays et royaume de France avant. Combien on a eu des problèmes avec les souverains qui étaient là de droit divin et qui ont fait des abominations, autant pour le pays que pour dans beaucoup d'autres choses. Mais ici, nous avons quelqu'un. Il sait qu'il est choisi de Dieu. Il a tout le peuple avec lui et pourtant, il tient un conseil. Il a les princes qui sont là et il parle de certaines choses. Et même, regardez maintenant l'attitude de David. Verset 2. David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous les côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les lévites dans les villes où sont leurs banlieues afin qu'ils se réunissent à nous. Et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu car nous ne sommes pas occupés du temps de Saül. » Parce que ce n'était pas la priorité de Saül. Saül n'avait pas cette relation avec Dieu que David a eue. D'ailleurs, même lorsque ça allait mal pour Saül et qu'il a voulu avoir l'appui du prophète Samuel, il dit « Invoque l'Éternel ton Dieu ». Il ne dit pas « Invoque l'Éternel notre Dieu ». Et il n'a jamais dit « L'Éternel mon Dieu ». Comme certains se présentaient, les prophètes, comme Élie disait « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant ». Et puis il positionnait tout de suite « Si je suis là, c'est parce que j'ai une relation avec Dieu ». Si j'ai de l'autorité, c'est parce que Dieu me l'a délégué. Mais Saül n'avait rien du tout de ça. Il devait toujours, il avait toujours besoin que quelqu'un d'autre fasse cette relation avec Dieu pour amener la bénédiction dans son camp et dans sa vie. Mais David savait, lui, qui était son Dieu. Mais par l'intelligence que Dieu lui a donnée, il a dit maintenant, il faut qu'on s'occupe de l'arche. L'arche doit être de nouveau mise au milieu du peuple de Dieu. Vous savez, l'arche qui était abritée par la tente de rencontre ou d'assignation, comme on dit des fois dans la Bible, c'était toujours le signe de la présence de Dieu dans le peuple d'Israël. Il nous a dit, il y avait un phénomène surnaturel que maintenant, si on le voyait de nos yeux actuellement, ça attirerait certainement les regards des gens. Une nuée était au-dessus de la tente. Et quand cette nuée se déplaçait, alors tout le peuple savait que c'était le moment de déménager. Pendant la nuit, ce n'était pas une nuée, c'était une colonne de feu. Imaginez une colonne de feu au milieu de la nuit qui se déplace. C'est quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire, et qui signifie la présence de Dieu. Et donc, David voulait revivre ces choses, que vraiment ça se voit, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et pour nous, ça doit nous parler à chacun de nous, de dire que la nuée qui représente des fois la présence du Saint-Esprit et l'onction se voit au milieu de nous, qu'on soit constamment accompagné. Il nous est dit, quand Pierre, l'apôtre, se déplaçait, on mettait les malades pour que l'ombre de Pierre puisse les toucher. Et on sait que l'ombre ne fait rien, c'est pas l'ombre qui touche. Donc c'était ce qu'il y a autour de lui. Dans l'occultisme, on parle d'aura, l'aura, ce qui est autour. Mais nous ne parlons pas d'aura, nous parlons de l'onction, de la présence du Saint-Esprit qui rayonne et qui agit autour de nous. Donc, c'est intéressant de voir que David dit « Si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu ». Cette façon de s'exprimer, pour moi, je ne le vois pas comme étant du doute. Parce qu'il y a des gens, ils font une prière et puis après, mais si, Seigneur, si tu veux faire ci ou si tu veux faire ça, etc. On voit souvent que des gens prient, mais ils n'ont pas de direction dans la prière. Ils n'ont pas reçu quelque chose de Dieu qui leur dit, allez dans cette direction. Alors, on fait une prière parce qu'on sait que c'est bien de prier, mais en même temps, il y a le doute. Ici, ce n'est pas la question. Pour moi, c'est plutôt une façon d'être intelligent et humble, de dire, on peut aussi se tromper. Moi, David, je suis quelqu'un qui suis proche de Dieu, j'entends de lui, je prophétise, je vis des choses, mais peut-être que je me trompe aussi. Donc, si vous le trouvez bon, si vous êtes d'accord avec ça, si vous pensez aussi que Dieu voudrait ça pour nous, alors allons dans cette direction. C'est une façon de ne pas avoir trop de certitude. C'est important de réaliser. Nous, d'un côté, nous voulons avoir des certitudes, n'est-ce pas vrai ? On a besoin que notre foi soit solidement établie. Mais quand on est trop sûr de nous, on peut aussi des fois partir tout seul dans une direction, alors qu'on n'a pas écouté le conseil des autres, on n'a pas vu certains aspects de la question, et on est dans nos certitudes, mais au bout d'un moment, on est un peu comme des Don Quichotte, là, on se bagarre tout seul contre des choses que Dieu ne nous a pas appelés à affronter. Donc moi, j'y vois là, une interprétation, ça peut être ce signe de l'intelligence que David, bien qu'il soit roi, unanime, on peut dire de droit divin, établi, il reste humble. Il sait d'où il vient. C'est important de savoir d'où on vient. Et nous, d'où on vient ? Ben qu'on était des pauvres pécheurs autrefois. On était destinés à l'enfer. Mais actuellement, nous ne sommes pas des pauvres pécheurs sauvés par la grâce. Mais on était des pauvres. Maintenant, on est la justice de Dieu en Jésus-Christ. N'oubliez pas ça, hein. Dans 1 Corinthiens 1, on l'a lu l'autre jour, nous avons été faits. Jésus a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification. Il a tout été fait pour nous, pour que les péchés qui étaient sur nous aillent sur Jésus et la justice de Dieu vienne sur nous. Donc nous sommes la justice de Dieu, mais David est assez humble pour ne pas oublier qu'il était un moment un simple berger, qu'il n'était même pas l'aîné dans sa famille, qu'il n'avait pas, d'après les hommes, une destinée extraordinaire. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Donc, ça montre l'humilité, ça montre l'intelligence de chercher le conseil, et ça montre que on ne va pas trop vite, on veut englober les autres dans le projet de Dieu, on n'a pas des certitudes trop fortes pour être capable d'entendre si on se trompe, et on a vu qu'il a dit « Envoyons des messages de tous les côtés ». Et donc, à la 21e siècle, ère de la communication, envoyons des messages de tous les côtés. Ça vous parle, ça? Voilà, il faut envoyer des messages. Et nos messages aussi, il faut les envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Romains 10, 14. Leur voix est allée jusqu'aux extrémités du monde. Donc notre voix, ma voix, enregistrée, va jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vos voix aussi se font entendre et les projets auxquels vous participez. Donc la communication. Vous voyez, il n'a pas attendu de faire des séminaires de communication au XXIe siècle pour avoir cette vision de Dieu, envoyant des messagers vers tout le monde pour avoir l'adhésion de nos autres frères dans toutes les régions d'Israël. Parce que bien sûr, quand on dit il y avait unanimité de ceux qui étaient présents, mais je veux dire, dans le dernier petit village au fin fond d'Israël, peut-être on savait des semaines après ce qui s'était passé à Jérusalem. Il fallait que un voyageur puisse y aller et puis leur dire, vous savez, en fait, on a un roi, maintenant il s'appelle David. Vous êtes au courant, vous avez peut-être passé du temps. Donc, voilà, faisons ça. Envoyons des messages et qu'est-ce qu'on veut leur dire? Qu'est-ce qui est important? Ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu. Ramenons l'arche de notre Dieu. On ne s'en est pas occupé. On a été trop occupé à d'autres choses. Ça nous parle aussi, ça? On est occupé à trop d'autres choses que la présence de Dieu dans notre vie n'est plus notre priorité. Elle n'est plus notre priorité parce que nous savons qu'il est avec nous. Je connais d'ailleurs même tous les versets bibliques où Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et on marche avec ce genre de certitude, mais la présence, ça veut dire on est conscient de sa présence. C'est une vraie personne. Je parle avec lui. Je réalise qu'il est là. Une des enseignantes de notre école biblique, Billy Brim, elle a une fille qui... ils ont vécu une expérience d'une visitation d'un ange. Donc, elle et son mari, ils étaient dans leur chambre à coucher au premier étage. Et donc, son mari descend. Je crois que c'était pour un motif du style aller au frigo et boire un verre dans la nuit. Et il se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est assis dans un fauteuil du salon. Et c'était un ange. Voilà. Donc, il voit cette présence angélique et quelque chose a rempli leur salon et leur maison. La présence de Dieu s'est fait sentir. Et donc, elle a dit, elle était choquée parce qu'elle a dit, moi je suis quand même plus spirituel que mon mari. Comment ça se fait que c'est lui qui a eu la vision de l'ange, pas moi? Mais je crois que c'est bon d'en rire comme ça et d'avoir cette simplicité. Mais elle a dit, il s'est passé quelque chose dans leur maison qui fait que pendant des semaines, ce lieu était comme saint, à part, sacré. Ils n'ont plus allumé la télé ni la radio et c'était tellement, on voulait entretenir cette présence et cette expérience. Mais vous savez, avec Dieu, il y a toujours un renouvellement. On ne vit pas sur une chose passée. Mais ça les a assez impressionnés pour qu'ils désirent continuer ce qui s'est fait. Je voudrais dire par là aussi, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons tous vécu des moments forts avec Dieu. Et donc, on peut avoir soit le souvenir des moments forts, soit absolument vouloir revivre les choses du passé, mais ce n'est pas toujours possible. Mais ce qu'il y a devant nous maintenant, c'est de vivre d'autres moments forts. Hein. Dans le couple, c'est pareil. Beaucoup de gens nous disaient au début de notre mariage des choses stupides du style « Oh, comme c'était bien le temps des fiançailles !» Ben non, c'était pas bien le temps des fiançailles. C'était bien dans le sens qu'on était content d'avoir trouvé une personne qu'on aime, etc. Mais ce qu'on attendait surtout, c'est le mariage, de pouvoir être enfin ensemble. Ça, c'était bien. Donc, on avait bien de la peine pour ceux qui trouvaient que le temps des fiançailles, c'était mieux que d'être marié. Mais après, on peut avoir de bons moments en tant que jeune marié. Et les années passent et ça serait quand même triste de dire « Ah, si seulement on était encore au début ». Ou même avant le mariage. Et donc il y a des temps qu'on ne peut plus vivre quand on a 30, 40, 50, parce qu'on n'a plus 20. Mais on peut vivre des choses ensemble. De la même façon, on peut vivre des choses avec Dieu. On peut vivre des choses nouvelles, où on le rencontre de nouveau. Et quand on est ensemble et qu'on est marié, on le sait qu'on est marié. On peut dire, mais on est ensemble, mais on peut être ensemble sans vraiment vivre des choses ensemble. Et alors c'est bien tristounet, quand on est juste l'un à côté de l'autre, que chacun a ses petites routines, mais qu'il n'y a plus cette communion, parce qu'on est appelé à ça. Quand Adam et Ève se sont vus, il y avait une révélation. Voilà la personne qui me correspond. Voilà la personne qui me complète. Voilà la personne, l'âme sœur, avec qui je peux échanger. Une personne de même niveau. Parce que avant, il y avait toutes les autres choses de la création, les animaux, mais ce n'est pas ça qui était recherché. La communion au niveau d'une personne qui soit de la même espèce. Dieu nous a créés à son image. Nous sommes, il faut le rappeler, nous sommes tous des esprits. Nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Cette définition de l'homme en trois parties, nous l'avons adoptée parce qu'elle nous fait énormément de bien. Elle place bien les choses selon leur ordre déjà. Esprit, âme et corps. Et qu'on voit chaque implication. Donc nous aimerions cette présence de Dieu. C'est une priorité pour nous et ce n'est pas un talisman, ce n'est pas un porte-bonheur. À un moment donné, dans leur divagation, le peuple d'Israël a aussi utilisé l'arche comme un porte-bonheur. Ils étaient éloignés de Dieu, ils étaient sur le point de s'engager dans une bataille et ils ont eu cette idée, faisons venir l'arche. Ça va nous porter chance. Ils n'ont pas dit comme ça, mais en quelque sorte, c'est ce qu'ils ont pensé. Ils ont dit, avec ça, on va certainement gagner la bataille. Eh bien, c'était désastreux. Beaucoup d'hommes d'Israël ont été tués, et l'arche a été capturée. Donc, il y avait une double déception. La défaite, et encore le fait que, mince, ce qu'on croyait qui allait nous aider, en fait, est passé chez l'ennemi. Donc, il y avait une complète désillusion. Si effectivement pour nous, on joue avec la présence de Dieu, comme quelqu'un a une fois dit, dans certaines églises ou dans nos comportements, Dieu serait comme dans une boîte. On ouvre la petite boîte et le personnage qui sort, qui fait ce petit truc, animation du dimanche matin ou le génie de la lampe, et puis après on le remet dans la boîte. C'est une notion totalement erronée de ce que nous pouvons vivre avec Dieu. Dieu est plus grand que ce que nous imaginons. Des fois, les gens pensent, je lui fais une grande faveur, je lui accorde quelques minutes de ma journée qui est tellement importante. Non, je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Donc, la présence de Dieu, recherchons-la. Ça veut dire, on communique avec lui et il nous est dit ici, toute l'assemblée décida d'agir de cette manière. Et cela parut juste à tout le peuple. Donc on est bien d'accord, on est unanime, tout le monde est d'accord que c'est une bonne idée d'apporter la présence de Dieu au milieu de nous. Et donc voilà, ils l'ont fait. Ils sont allés dans la direction de l'arche, là où était déposée l'arche. Et ils ont dit, on va maintenant apporter l'arche de Dieu. Au verset 6 dans ma version, là il est dit, faisons monter l'arche de Dieu à laquelle est associé le nom de l'Éternel qui siège entre les chérubins. Donc juste que je vous disais de la grandeur de Dieu que vous puissiez le réaliser. L'Éternel qui siège entre les chérubins. C'est une réalité céleste. Il y a actuellement, au moment où je vous parle, un être céleste qui s'appelle Dieu, qui règne sur tout l'univers et au milieu de lui, au milieu et autour de lui, il y a des milliers, des millions d'êtres célestes, dont certains sont les chérubins. Les chérubins sont parmi les anges de rang très élevé. Et on appelle ça des fois des chérubins protecteurs, des anges très puissants. Et tout ça vise à nous montrer qui il est réellement. Il n'est pas la patte de lapin que je porterai dans ma poche pour me porter chance. Il n'est pas non plus la roue de secours. Je suis en panne, j'ai un besoin, j'appelle Dieu. Il est plus que ça. Et donc, c'est ça que nous voulons. Nous voulons être en contact avec cet être céleste qui s'appelle Dieu pour nous. Et il nous est dit, cette arche à laquelle est associé le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est extrêmement important. Dieu a fait en sorte qu'il y ait un commandement parmi les 10 qui disent « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » On ne dit pas à tort et à travers « Dieu ceci, Dieu cela ». Je ne parle même pas de blasphémer ou de jurer. Je parle de ne pas prononcer à la légère. Le peuple d'Israël n'ose pas prononcer le nom de Dieu. Ouais. Parce qu'il voulait souligner la sainteté de celui dont le nom est l'Éternel. Nous avons cette liberté de l'appeler Dieu, Éternel, Tout-Puissant, même Papa, ou tout ce que vous voulez, parce qu'on a cette proximité en Jésus. Mais ça ne doit pas nous faire oublier qui il est et combien il est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Alors, voilà, ils ont eu cette idée. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, où il était déposé. Donc, ça semble une bonne idée. On dit, mais voilà, si on veut amener la présence de Dieu dans ma vie, qu'est-ce que je pourrais faire pour amener la présence de Dieu dans ma vie? Et alors, nous avons des idées. Et on se dit, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. On va l'amener sur un char. Oui, mais pas n'importe quel char. Un char neuf. Un char qui n'a jamais servi. Ça doit être une bonne idée. Comme par exemple, amener la présence de Dieu avec quelque chose de nouveau. Vous voyez, il faut quelque chose de... Comme dans le monde de l'entertainment, les distractions, il faut quelque chose de nouveau. Un nouvel star, il faut quelque chose, un truc qui va éblouir les gens. Et donc ça, c'est l'être humain. On développe des idées nouvelles, créatrices. On se dit, ça doit être une bonne idée. Amener Dieu, sa présence, qui est dans ce coffre, dans cette boîte, n'est-ce pas? Et un coffre neuf. Mais ça marche pas comme ça, parce que Dieu avait prévu la façon dont l'arche devait être transportée. Et là, nous voyons que des fois, on manque la présence de Dieu parce qu'on manque de regarder ce que lui désire. C'est écrit là. Voilà, on manque de connaissances. On ne cherche pas ce qu'il désire vraiment. C'est comme quand vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Des fois, on offre un cadeau en fonction de ce que nous aimerions. On dit, ça va lui faire plaisir parce que ça me ferait plaisir. Sauf que vous êtes différents. Donc, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui l'appréciera, il faut suffisamment connaître la personne pour savoir ce qu'il aime. Sinon, vous allez faire des dépenses. Vous allez être super content. Ouais, il va être content, je vais lui apporter un cadeau. Et après, ça va être une déception pour tout le monde. Celui qui a eu le cadeau et celui qui ne voit pas de l'enthousiasme et de la joie en face. Et donc, dans notre relation avec Dieu, il faut qu'on soit attentif de la même façon. Nous savons que nous sommes parfaitement aimés de Dieu. Mais il y a une différence entre être aimé de Dieu et être agréable à Dieu. Donc, quand on veut lui faire plaisir, il faut savoir ce qu'il aime. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand on veut amener la présence de Dieu dans notre vie, il faut savoir comment déplacer cette arche. Et là, quelle était l'idée? Ce n'était pas l'idée du coffre neuf, ni du char neuf, ni de je ne sais quoi. C'était que l'arche devait être portée par des lévites. Donc, il y a une catégorie particulière de gens qui peuvent amener la présence de Dieu dans leur vie. Les lévites, quelle est la définition des lévites? C'est des gens qui sont consacrés au service de Dieu, comme vous et moi sommes appelés à le faire. On est capable d'amener la présence de Dieu dans notre vie que si on a une vie qui lui est consacrée. C'est simple, finalement. Hein. Donc, on ne peut pas faire semblant et avoir quand même la bénédiction. Ça ne marche pas. Et donc, dans la suite de l'histoire, donc ils avaient ce char qui se déplaçait. Et à un moment donné, que se passe-t-il? Le char, il penche Les bœufs se sont déplacés sur un terrain qui était, ou un chemin qui penchait, et l'arche était sur le point de basculer. Et là, encore une bonne idée. Quelqu'un a mis la main pour qu'elle tombe pas. Et à ce moment-là, il nous est dit, la colère de Dieu s'est déclenchée et il est tombé raide mort. Il a été frappé. La colère de Dieu, c'est quand on sort du plan de Dieu où il y a la bénédiction, alors on se trouve dans une autre zone qui s'appelle la colère de Dieu. On peut dire que d'une certaine façon, le diable est la personnification de la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est ce qui est en dehors du royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il nous est dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas destinés à la colère. Puisqu'au contraire, on a été arrachés du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de Dieu. On n'est pas destiné à la colère. Mais quand on sort du champ protecteur de Dieu, on s'expose des fois à la colère. Donc quand on a une direction qui est donnée par Dieu, l'arche doit être transportée par des gens consacrés et à dos d'hommes, et qu'on ne remplace par des idées personnelles. Il ne faut pas s'étonner s'il y a des fois des choses qui se passent de travers. Donc là, une bonne idée, une deuxième bonne idée, et etc. Donc ça ne marche pas. Et alors, quelque chose se produit, c'est que au moment où cet homme a été frappé par Dieu, il nous est dit au verset 11, « David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uzza. » Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui « Peretz Uzza ». Ça veut dire la brèche de Uzza. Il s'est passé quelque chose pour ce personnage qui, bien intentionné, avait fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de toucher l'arche de Dieu. Et quand il est dit « David fut troublé », ça veut dire qu'il découvre, à ce moment-là, c'est ce que je voulais aussi souligner, il découvre un nouvel aspect de Dieu qu'il ne connaissait pas jusqu'à présent. David était, ouais, maintenant, il était le gentil petit berger qui gardait ses moutons, qui jouait avec son instrument, qui composait des cantiques et qui vivait une proximité avec Dieu. Mais ensuite, les épreuves de la vie l'ont conduit à découvrir une autre façon de connaître Dieu et sa relation. La protection, toutes les fois il l'a sauvé, etc. Il a découvert d'autres. Et là, dans cette situation, il découvre encore une autre facette de Dieu. Dieu lui révèle quelque chose de sa sainteté. Ce n'est pas parce que je t'aime, ce n'est pas parce que je te bénis, ce n'est pas parce que on a une relation que tu peux faire n'importe quoi. Donc sois attentif à la façon dont je te demande de mener certaines choses. Parce que là, de quoi on parle là? De choses plus élevées. Vous vous rappelez que dans le livre des Hébreux, il est dit qu'à un moment donné, nous cherchons des choses meilleures par rapport au salut. Il faut que je vous lise celui-là. Hébreux 6. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il se rappelle tout ce que vous avez fait, votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous avez rendu, vous rendez encore des services aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Être zélé pour Dieu, c'est bien, mais zélé de la bonne façon, pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, quelle est cette promesse que nous voulons hériter? C'est que cette présence de Dieu apporte la bénédiction là où nous sommes. Et une des bénédictions que je crois les plus importantes dans notre monde actuellement. Dans notre monde, qu'est-ce qui se passe? On parle beaucoup de l'inquiétude. C'est un autre mot pour la peur. Ah, les Français sont inquiets. Combien de fois on entend « les Français sont inquiets » Mais bon, dans un autre pays, on dirait peut-être les mêmes choses. Mais il faut bien savoir, il y a deux forces qui s'opposent. La confiance en Dieu et la peur qui est donnée par le diable. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a donné une alliance par laquelle nous pouvons vivre sans crainte. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important de réaliser. Dès que je l'aurai trouvé, des fois il y a un passage qui veut m'échapper, c'est dans Luc. quand il y a cette prophétie, il faut qu'on trouve où c'est. Voilà, c'est là, dans Luc 1, 74, c'est Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui est rempli du Saint-Esprit et il prophétise et dit un certain nombre de choses. Et au verset 74, il nous dit « Dieu veut nous permettre, après que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Voilà ce que Dieu veut, qu'on puisse le servir sans crainte. Et ici donc, David, il nous a dit, il fut troublé de ce qui est arrivé, parce qu'il a découvert une nouvelle facette. Mais Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mais simplement, par cet exemple, il nous montre que on ne peut pas d'un côté vouloir la présence de Dieu, vouloir la colonne de nuée, vouloir la colonne de feu, et vouloir les miracles et les expériences extraordinaires, et d'un autre côté négliger un certain nombre de choses. Mais Dieu, il nous a dit, il donne constamment le témoignage de ce qu'il est. À cause de cette chose, David a retardé la présence de Dieu dans sa vie, on peut dire. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a vu que Uzza a été frappé de mort, il a dit « Stop, je ne peux pas faire entrer cette arche au milieu de nous, c'est terrible ce qui s'est passé. » Alors, au lieu, il avait, rappelez-vous, avec tout le peuple, ils étaient mis d'accord, on amène l'arche, mais ils l'ont en cours de route, ils ont dit ouais, « on va la déposer là ». Là où ça s'était passé, ils l'ont déposée, et au bout d'un moment, ils ont entendu, verset 13, « David ne prit pas l'arche chez lui dans la ville de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. Et l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, chez lui, et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. » Donc David n'a pas été jusqu'au bout. Il a dit « Oh, j'ai trop peur maintenant, il risque de se passer des choses terribles avec cette arche. » Mais là où il l'a déposée, la bénédiction de Dieu se manifestait pour cet homme qu'il a accueilli dans sa maison, il nous a dit, et pour toute sa famille. Mais quand il a vu ça, David a dit, oh non, il faut quand même que j'aille jusqu'au bout de mon raisin. Et là encore, c'est quelque chose qui devrait nous encourager, de dire, il faudrait que les gens voient, ils soient jaloux de nous, dans un bon sens du terme, de dire, hey, mais comment ça se fait qu'il y ait tellement de bonnes choses qui se passent pour eux? Voilà, des choses concernant la maladie, la prospérité, les relations dans la famille, plein de choses qui se passent parce qu'il y a la présence de Dieu. Et donc, David dit, bon, maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Donc, il recherche dans le manuel de la parole de Dieu comment il faut faire. Avant, c'était une bonne idée, le char, tout ça. Et maintenant, il recherche. Ah oui, c'est comme ça que Dieu voulait qu'on fasse. On le porte avec plusieurs hommes, et etc. Et donc, après, c'est devenu quelque chose de totalement différent. Ils ont fait une procession. De temps en temps, ils s'arrêtaient. Ils faisaient des sacrifices. Et tout le monde dansait. Et puis, David lui-même, il nous a dit, il avait un manteau. Et en dessous, il avait une simple petite habit de lin. Peut dire une sorte de culotte, quoi. Et donc, il dit, à un moment, il a même enlevé son manteau. Et il a dansé devant l'Éternel. Et il nous a dit qu'il a voulu se rendre humble devant Dieu en disant, peu importe ce que les gens pensent de moi, je le fais pour Dieu. Et donc, c'est comme ça que, finalement, l'arche est arrivée jusqu'à la destination. Ce que je voulais dire encore, c'est que quand l'Éternel a béni cet homme, Obed-Edom, et toute sa famille, on peut souligner que la présence de Dieu apporte la bénédiction. Dans Actes 14, 17, il nous est dit, « Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage à ce qu'il est, par le bien qu'il fait. » Voilà le témoignage de Dieu. Il donne témoignage de qui il est par le bien qu'il fait. Il envoie du ciel les pluies, les saisons fertiles. Il vous comble de nourriture et remplit vos cœurs de joie. Voilà ce qu'il fait. Et un dernier passage que je partage avec vous en conclusion, c'est encore une fois, je voudrais qu'on fixe vraiment nos regards sur Jésus, de qui il est maintenant. Dans Apocalypse 1, 4, il nous est décrit. C'est Jean qui écrit aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix, que ce soit comme une bénédiction finale pour nous tous. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le premier-né d'entre les morts. Le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime. Réalisez combien vous êtes aimés de Dieu ce matin. Qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen, ça ne veut pas dire voilà, c'est terminé. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'on veut. Le voici, parce que ce n'est pas terminé. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, amen. Amen, pas dans le sens que toutes les familles pleurent, mais qu'il se révèle, le voici, qu'il vienne. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.